Chapitre 23. Le nihilisme. Ainsi que bien d'autres choses, les événements changent de signification, d'apparence, suivant la façon dont nous les examinons, suivant aussi notre état d'esprit. Francis Drake, dans la joie que lui causait la facilité inespérée de son évasion, n'avait vu là qu'un concours de circonstances heureuses. Il avait interprété l'aisance avec laquelle il avait quitté sa prison de tôle comme une preuve de la sécurité dans laquelle croyait se trouver Chrysler. Maintenant, les choses lui apparaissaient tout autres. Si vous le croyez votre dupe, s'il ne l'est pas, lequel est dupe de lui ou de vous, a dit la Bruyère. Drake, amèrement, se remémora la pensée du moraliste français. Oui, il avait cru surprendre Chrysler. Il avait cru se jouer des préoccupations de corruption du bandit. Et c'était lui qui avait été y jouer. Il ne le comprenait que trop à présent. L'interstice existant entre la trappe et le bord de la cloison de tôle. Chrysler l'avait vu. Et c'était certainement Chrysler qui avait fait dévisser les écrous de la face supérieure du panneau, parce qu'il savait que Drake ne pourrait pas dévisser. Et Drake, dans la joie de la réussite, avait cru à une négligence. Avait-il été assez naïf? Et ce factionnaire qui dormait profondément, si profondément qu'il n'avait pas entendu le grincement des écrous et le glissement du panneau, il dormait, ivre sûrement ou drogué. C'était Chrysler qui l'avait enivré, qui avait fait mêler quelques soporifiques à sa boisson. Comme tout s'expliquait, Francis Drake, tout à ses réflexions, en avait oublié sa douleur. Évidemment, il se trouvait dans un port sibérien. La basse température, les uniformes russes et jusqu'à ses coupoles qu'il avait aperçues de là de l'air, tout le lui indiquait. Mais pourquoi l'avait-on poursuivi et arrêté? Chrysler y était pour quelque chose. Ça avait été sûrement sur son ordre que Stein avait crié et fait feu de son revolver. Chrysler devait avoir raconté quelque histoire aux autorités russes si soupçonneuses. Mais laquelle? Quelle pouvait être la nouvelle machination ourdie par le misérable? Peu importait, Drake serait interrogé. Il parlerait, il s'expliquerait et, malgré tout, réussirait à rétablir la vérité. Toutes ces réflexions, toutes ces déductions, le financier les retourna de tous côtés et les examina sur toutes leurs faces et réussit ainsi à entrevoir la vérité. Mais il ne pouvait la soupçonner tout entière. Il était encore plongé dans ses sombres méditations lorsque la porte de son cachot s'ouvrit. Deux cosaques apparurent et lui crièrent un ordre. Il devina qu'on lui commandait de sortir de sa prison. Péniblement, il se dressa et voulut marcher vers la porte, mais la chaîne qui le ceinturait le retint. Il trébucha et faillit tomber. Un des cosaques ricana bruyamment et, s'étant approché du prisonnier, ouvrit le cadenas et débarrassa Drake de son entrave. Le financier, ses jambes molles fléchissant sous lui, franchit le seuil et s'immobilisa. La porte de son cachot ayant été refermée, les deux cosaques le poussèrent brutalement devant eux. Il marcha longtemps à travers d'interminables couloirs, traversa une vaste antichambre où se tenaient plusieurs soldats, et arriva enfin dans une pièce où trois scribes en uniforme vert, olive, étaient penchés sur d'énormes in-folios. Dans un angle, un officier russe chauffait ses jambes à un poêle de porcelaine. Drake fut poussé devant lui. L'officier l'examina longuement avec un mépris et un dégoût non dissimulés. Puis, le fixant, il lui adressa une question en russe. « Me comprends pas, » répondit le financier en anglais. « Je suis citoyen américain et... »« Oh, américain ?» interrompit l'officier en français. « Vous parlez français, peut-être ?»« Oui, simplement, je suis... » Vous répondrez quand je vous interrogerai. D'où venez-vous? Ne mentez pas. Si vous ne voulez pas être Clouté. Mais je n'ai pas l'habitude de mentir, monsieur. Je suis le banquier américain, Francis Drake. Non, je vous demande d'où vous venez. Répondez. Je viens de San Francisco. J'ai été enlevé par Carl Kressler, un misérable, qui m'a endormi et embarqué sur son yacht, Adler. Ma fille. L'officier se redressa, les sourcils froncés. Il s'approcha de Francis Drake jusqu'à le toucher, et le regardant bien dans les yeux, coupa. Ah, c'est de balivernes, hein, voyons. N'ai pas l'habitude qu'on me prenne pour un imbécile. Je te demande d'où tu viens et qui t'a payé pour accomplir ton forfait. Il dépend que de toi de ne pas crever sous le knout. Toi et ta complice, d'où viens-tu? Qui t'a payé? Francis Drake faillit tomber. Margaret, qu'il croyait morte, les paroles de son interlocuteur lui annonçaient qu'elle vivait. Un flot de sang monta à son visage. Le Russe crut que c'était l'émotion d'être deviné et il reprit. Dans une minute, tu seras clouté, mon gaillard. Je t'écoute. Francis Drake appela toute son énergie à lui pour garder son calme. Je vous prie de bien vouloir m'écouter un instant sans m'interrompre, monsieur, dit-il d'une voix qu'il s'efforça de rendre paisible. Je suis victime d'une affreuse machination. Ainsi que je vous l'ai dit, j'ai été enlevé par Karl Kressler avec ma fille. Il vous est facile de le contrôler. Cette nuit, nous avons réussi à nous évader et c'est alors que nous avons été poursuivis par un canot et faits prisonniers. Ah, c'est comme cela, pas possible, ricana le Russe. Une drôle d'histoire en vérité. Cependant, tu oublies de mentionner les bombes que nous avons trouvées dans ton embarcation. C'était des provisions de voyage, sans doute. Les bombes? Sursauta l'Américain. Les bombes, oui. Et aussi le plan du palais de Son Excellence. Nous avons tout trouvé, mon petit pigeon. Tu comprends? Inutile donc de nous raconter des histoires. Dis-moi le nom de tes complices et comment tu t'es introduit à la Sakhaline. Peut-être t'en tireras-tu avec 20 ans de bagne, sinon, toi et ta complice, vous crèverez sous le knout. Ton vrai nom. Je vous ai dit la vérité, je suis Francis Drake, et le canot dans lequel j'ai été pris avec une fille est celui de l'Adler. Les bombes ont dû être placées d'avance. N'est-ce pas? Et cet uniforme de matelot de la Lyre, on te l'a fait revêtir de force, sans doute. Mais tu nous prends pour des imbéciles, mon petit. Tu es arrivé avec ta complice sur une des jonques qui sont dans le port. Tu t'es introduit à bord de la Lys après avoir tué un des marins, celui qui était de faction pour garder le canot que tu as volé. Tu voudrais te servir de ce canot pour débarquer plus facilement à la barbe des douaniers. Mais on t'a vu de la Lys et on t'a crié. Alors, toi et ta complice, vous avez essayé de fuir en voyant arriver la police. Et maintenant, tu veux continuer ta comédie. Inutile, inutile. Tu es un de ces misérables nihilistes que Dieu damne. Mais nous ouvrons les yeux ici. Nous vous connaissons. Tes bombes ne serviront pas encore cette fois-ci. D'où venais-tu? Francis Drake ne trouva rien à répondre. Rien ne distingue la vérité du mensonge lorsqu'il n'y a pas de preuve. Et non seulement Drake ne pouvait fournir aucune preuve de ses affirmations, mais encore toutes les apparences étaient contre lui. Kressler lui avait tendu un piège dans lequel il était venu se jeter les yeux fermés. Mais j'ai dit la vérité, affirma-t-il d'une voix ferme. Oh, je comprends que vous ne me croyiez pas, mais si vous vouliez seulement télégraphier aux États-Unis, vous auriez facilement la preuve de mes affirmations. Le yacht qui est dans le port et dont je me suis évadé s'appelle l'Adler et appartient à Carl Kressler. En interrogeant l'équipage séparément, vous apprendriez bien des choses. Oui, en attendant, je te ferai mettre en liberté, mon gaillard. Tu n'es pas le premier à qui j'ai affaire. Oh, vous avez de l'imagination, tous. Quand vous êtes pris, vous trouvez toujours quelque histoire à nous raconter. Je la connais. Avant, on vous croyait, on télégraphiait, on perdait son temps à éclaircir vos inventions. Et pendant ce temps, les jours passaient, et vous ne partiez pas au bagne ou à la potence. Toujours autant de gagner, d'autant plus que plusieurs d'entre vous en ont profité pour s'évader. Grâce à Dieu, ce temps-là est fini. Maintenant, nous y voyons clair. Prise en flagrant délit avec des bombes et un plan du palais de Son Excellence, oh, cela ne te suffit pas? Tu aurais peut-être voulu qu'on te laisse accomplir ton forfait? Assassin et menteur, comme les autres. Mais je vous connais. Puisque tu veux rien avouer, que tu ne manifestes même pas le repentir de ton forfait, ton affaire est claire. Tu seras jugé par la cour martiale avec ta complice. Rends grâce à Dieu que je sois invité à une partie de chasse aujourd'hui, autrement j'aurais voulu te voir sur la jument. Mais ce n'est que partir bise, mon petit. Sur l'ordre de l'officier, Drake dut apposer sa signature au bas d'une feuille couverte d'une écriture qu'il ne put déchiffrer, ne sachant pas le russe. C'était son interrogatoire. Les deux Cosaques qu'il avait amenés le reconduisirent dans son cachot. Décrire ses angoisses est impossible. Le malheureux se sentait impuissant. La pensée, surtout, que Margaret allait partager son atroce destin l'accablait. Mais que deviendrait-elle? À cette pensée, de grosses gouttes d'une sueur d'angoisse coulèrent le long des tempes du malheureux père. Vivre, sortir de cet enfer et se venger, tenir Chrysler sous lui, le tuer 20 fois, 100 fois. Hélas, il ne pouvait rien. Le lendemain matin, les deux Cosaques de la vieille vinrent le chercher et l'amenèrent dans un salon où un petit vieillard à lunettes, en uniforme d'officier supérieur, tout chamarré de décorations, était assis derrière un immense bureau d'acajou incrusté de cuivre. Le colonel Birbatchev, chef du district d'Alexandrovsk et lieutenant-gouverneur de l'île de Sakhaline pour Sa Majesté le Tsar de toutes les Russies. Nihiliste, dangereux, avez-vous voulu faire sauter le palais de Son Excellence? Bafouilla-t-il en mauvais anglais. Vous prétendez américain, nihiliste américain, russe émigré, ou fils de russe? Allez, répondez, je suis le colonel Birbatchev. Francis Drake était infiniment las. Il savait d'avance que ses protestations seraient inutiles. Pourtant, il voulut lutter jusqu'au bout. Il faut dire que Birbatchev l'écouta sans l'interrompre. Il l'écouta aussi sans l'entendre. Il avait appuyé son coude sur son bureau et posé son manteau dans sa main ouverte. Ainsi calé, il somnolait vaguement, bercé par la voix de l'Américain. De mensonges, des histoires d'enfants, murmura-t-il avec dédain. Voyons, dites la vérité. Qui vous a envoyé? Je vous promets un fort adoucissement de peine si vous me donnez le nom de vos complices. Je ne suis pas méchant, moi. Je n'aurais rien fait aux nihilistes. Que me veulent-ils? Ne pourrais-je donc jamais être tranquille dans ce pays maudit? Au son de ces paroles, l'étincelle d'espoir qui avait un instant brillé devant les yeux de Francis Drake s'évanouit. Oh, faites de moi ce que vous voudrez. Je désirais seulement savoir où est ma fille. Le colonel Birbatchev regarda l'inculpé comme s'il ne comprenait pas. Puis, se dressant soudain, il glapit un ordre aux Cosaques. L'Américain fut ramené dans son cachot.